Bonjour, aujourd'hui une tragédie oubliée de la guerre de 14-18, les gueules cassées.
Ô visage sans yeux, ô face sans mâchoire que l'infâme tranchée un jour a rejeté. Ô vous qu'a massacré le pilon de la gloire, je vous aime bien plus que toutes les beautés. Émile Poitot, bulletin de l'Union des gueules cassées.
Ans d'histoire. Le 28 juin 1919, dans l'immense galerie des glaces du château de Versailles, le président des États-Unis, les chefs des gouvernements français, italiens et anglais signent avec l'Allemagne le traité qui met un terme à la Première Guerre mondiale. En face d'eux, tout le monde remarque le visage terrifiant de 5 grands blessés de guerre que Clémenceau a fait asseoir à la table des négociations. Ils symbolisaient à eux seuls toute la tragédie et les horreurs de la guerre qui venait de s'achever. Puis on a très vite oublié cette catégorie très particulière de blessés, ceux qu'on appela bientôt les gueules cassées. Leurs visages déformés rappelaient de trop mauvais souvenirs. Ils ont donc gardé pour eux, dans leur mémoire, le jour où, entre 1914 et 1918, une balle, un éclat d'obus ou une mine ont fait basculer leur vie pour toujours.
On ne peut plus parler. On ne peut plus parler. Je n'ai plus de dents, plus de palais. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai mal.
Narcisse, ce matin, ils n'ont pas osé le toucher. Découvert il y a 6 jours. La boue a bloqué l'hémorragie de l'artère linguale. Sans cela, il serait vidé de son sang. Béance totale des parties situées du sommet du menton jusqu'à la moitié du nez, avec destruction du maxillaire supérieur côté droit et du palais. Destruction partielle de la langue, apparition des organes de l'arrière-gorge. Vous nettoyez les plaies et vous me le dégagez à l'arrière. Ici, je ne peux rien faire.
Il aurait mieux valu qu'il meure.
Sophie Delaporte, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'était un extrait de La Chambre des officiers, un très beau film de François Dupeyron, dont vous avez été, je crois, la conseillère historique. Vous êtes également l'auteur d'un livre publié aux éditions Noésis, Gueules cassées. Alors, les gueules cassées, c'est le nom qu'on a donné aux blessés du visage, de la face, pendant la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qui fait de ce type de blessure et de ce type de blessés, des blessés différents des autres blessés, qui étaient beaucoup plus nombreux dans la Grande Guerre?
Les gueules cassées sont le nom qu'ils se sont donné eux-mêmes, à eux-mêmes. Il y a l'ethnologue David Le Breton qui considérait que le visage était le lieu le plus humain de l'homme. Et il est permis de considérer les atteintes qui lui sont faites comme les blessures les plus déshumanisantes. Et quand on regarde les photographies des blessés au visage, qui sont quand même assez terribles et très, qui leur confèrent aussi un caractère très spectaculaire, on peut considérer que les gueules cassées sont les exemples les plus caractéristiques de la déshumanisation des corps par la guerre.
Ils représentaient combien de blessés? Vous dites que il est difficile d'établir, parce qu'en fonction de degré de gravité des blessures, le nombre des blessés de la Première Guerre mondiale, il y a eu énormément de morts, plus d'un million de morts du côté français. Il y a eu aussi, plus de 2 millions de blessés, dont 15% étaient blessés au visage. Cela dit, vous mentionnez des chiffres de 10 à 15 000 blessés de la face, 10 à 15 000 gueules cassées.
Oui, l'estimation est très, très difficile à vérifier, et le chiffre même des blessés, en règle générale, est très difficile à établir, dans la mesure où la plupart des combattants ont été blessés au moins 2 à 3 fois. Et dans le cas des gueules cassées, se pose également la question du degré de la blessure, jusqu'à quel point une blessure est défigurante. Mais on estime, le nombre d'inscrits à l'association des gueules cassées à la veille de la Deuxième Guerre mondiale était de l'ordre de 10 000. Donc il est permis de penser qu'il devait être au moins 15 à 20 000.
Cela dit, des blessés, le nom n'existait pas encore, le nom de gueules cassées, mais des blessés de la face, il y en avait eu dans d'autres guerres. Pourquoi est-ce que celle-ci, on s'y est plus intéressé qu'aux précédentes, Sophie Delaporte?
On trouve d'autres exemples de blessés au visage dans les guerres précédentes, en particulier au cours des guerres napoléoniennes. Et ce qui frappe, la nouveauté, entre guillemets, de la Première Guerre mondiale, ce qu'elle apporte, c'est d'abord l'état des délabrements qui sont considérables et qui sont jusque-là complètement inconnus et ignorés par le monde médical, et surtout la fréquence avec lesquelles ils se trouvent confrontés à ce type de blessés.
Puis des blessés avec des armes beaucoup plus violentes. Avant la Première Guerre, c'était surtout beaucoup l'arme blanche ou des balles qui n'avaient pas une grande force de pénétration. Là, ça a été en 14-18, c'était les éclats d'obus. Il y en a eu des millions qui ont été lancés.
La modernisation de l'armement a contribué évidemment à...
Guerre nouvelle, blessure, armes nouvelles et blessures nouvelles. Alors, vous dites évidemment que la blessure est encore plus grave psychologiquement que physiologiquement. C'est vrai que quand on voit dans votre livre les visages de quelques gueules cassées, on est assez terrifié. De même que d'ailleurs que quand on lit les témoignages qui sont cités dans votre livre et qui disent toute l'horreur qu'inspire justement le visage des gueules cassées à tous ceux qui les rencontrent depuis le front jusqu'à l'hôpital. La revue de texte de Stéphanie Duncan.
Oui, un brancardier de Verdun, par exemple, raconte la découverte sur le champ de bataille d'un blessé de la face. « Celui-ci n'est pas mort, dit-il, et c'est bien tant pis. Comment un éclat d'obus, un seul, a pu faire une telle blessure? Je détourne les yeux, mais j'ai vu, et je n'oublierai pas, dussé-je vivre 100 ans. J'ai vu un homme qui, à la place du visage, avait un trou sanglant. Plus de nez, plus de joue, tout cela a disparu. Plus qu'une large cavité au fond de laquelle bougent les organes de l'arrière-gorge. Plus d'yeux, mais des lambeaux de paupières qui pendent dans le vide. » Cacher ce masque d'horreur. Et cet autre à profil de fouine, dont le maxillaire inférieur a été emporté. Une infirmière qui a rédigé ses mémoires, Henriette Rémy, se souvient du choc à l'hôpital des nouvelles recrues, souvent bénévoles. L'une de ces infirmières s'est retrouvée, dit-elle, en face de ce que j'ai vu de plus atroce de toute ma vie, une vingtaine de monstres, d'hommes qui n'ont plus rien d'humain, de corps portant des débris mutilés de visage. Alors, passé ce premier moment d'effroi, bien sûr, il faut réagir. Il ne faut pas qu'ils voient ce que je ressens, explique Henriette Rémy. Il faut avant tout éviter de les offenser ou de les faire souffrir en laissant deviner du dégoût ou simplement de la compassion. En l'épreuve du regard, on commence aussi par le miroir. Cet objet de malheur, écrit Henriette Rémy, était interdit dans certains services. Pourtant, de temps en temps, un miroir de poche circulait dans la section. Dans la revue La Greffe Générale, c'est une revue qui a été conçue et réalisée par des gueules cassées. On sent bien l'humour aussi, par de dérision qu'ils pouvaient avoir sur eux-mêmes, La Greffe Générale. Et dans cette revue, un blessé décrit son visage meurtri. Une chose sans nom, un amas monstrueux de chair déchiquetée, de pansements, de pus, de fièvre empaquetée, œuvre d'amour, teinte d'horreur par le canon. Henriette Rémy raconte aussi les retrouvailles difficiles d'un blessé de la face avec sa femme. Aujourd'hui, il est heureux. Sa femme doit venir. Elle m'embrassera, dit-il, et tout le reste sera oublié. Ce baiser, je l'attends depuis des mois. Et elle est venue. Mais devant ce front sillonné de cicatrices, devant cette absence de nez, devant cette face ravagée, elle s'effondre. Lui, de ses mains maladroites, la cherche. Embrasse-moi, embrasse-moi. Mais elle, affolée, se dégage et se sauve. Je ne peux pas, je ne peux pas.
C'est bouleversant, ces témoignages qui sont dans votre livre, Sophie Delaporte, et puis ils décrivent un peu toutes les étapes, ce que vous faites aussi dans votre livre, des épreuves, du calvaire, on peut le dire, que traversent les gueules cassées, en commençant par le front, où il y avait ce brancardier qui décrivait ce qu'il voyait, et souvent d'ailleurs, vous le dites dans votre livre, ces blessés, très gravement blessés au visage, étaient laissés pour mort. Parce qu'on croyait que, en voyant leur visage, on se disait c'est pas possible, ils vont pas survivre.
Voilà, c'est ce dont on rencontre justement le témoignage du brancardier que vous évoquez, et il rencontre également du caractère très spectaculaire de la blessure au visage, et il rencontre aussi de l'impréparation des brancardiers et des médecins du front qui le plus souvent sont de jeunes médecins ou des étudiants en médecine qui ne sont absolument pas préparés à ce type de confrontation. Et on remarque également dans leur témoignage, le peu de médecins du front qui ont témoigné, que c'est justement ce caractère spectaculaire des traumatismes et la vision de corps mutilés et de corps des morts qui suggère le trauma chez les médecins eux-mêmes.
Et vous dites aussi qu'il y a une disproportion entre l'aspect physique et la gravité réelle. En fait, c'était des visages monstrueux, mais de gens qui pouvaient survivre. La preuve, vous citez Albert Jugon qui est resté, dont on parlera encore, mais qui est resté
très longuement, auquel on a administré l'extrême onction, qui dit mais non, je suis vivant. Et alors on les transporte à l'hôpital. Et alors là, les délais sont interminables. Autre étape du calvaire, le transport. Il fallait parfois plus d'un mois pour qu'ils arrivent à l'hôpital.
Oui, c'est particulièrement le cas pendant les premiers mois du conflit, puisque le service de santé s'est trouvé un peu dépourvu, puisqu'il n'a pas anticipé l'effroyable guerre à laquelle il s'est trouvé confronté. Et donc, il a fallu improviser de toutes pièces des formations sanitaires, former également les médecins, de manière à ce qu'ils puissent aller chercher les blessés au plus vite et les évacuer, évidemment, au plus vite dans ces formations sanitaires, capables de les prendre en charge véritablement.
Avec deux types d'hôpitaux, il y avait les hôpitaux, un hôpital près du front qui était Amiens, et ensuite au fur et à mesure que la guerre s'est prolongée, il y a eu d'autres hôpitaux à l'arrière où là on était capable de les accueillir plus longuement, et on distinguait, d'où d'ailleurs le titre du film dont on entendait des extraits, on distinguait les officiers et les soldats, hein, ils n'étaient pas logés à la même enseigne, ni dans les mêmes chambres.
Oui, même si la blessure annule forcément la hiérarchie militaire.
Oui.
Mais dans la chaîne d'évacuation sanitaire, vous aviez les formations, les premières formations qui étaient les postes de secours qui se situent entre la ligne de feu et vraiment le premier moment où l'on regroupe les blessés, quel que soit leur type de blessure. Et ensuite, vous avez les structures qui se sont mises en place petit à petit, que l'on appelait les ambulances chirurgicales, qui, elles, étaient mobiles et qui se situaient à proximité du front, où là, on opérait véritablement ces blessés. Et ensuite, vous avez l'évacuation vers les hôpitaux de l'intérieur, où se faisaient véritablement les étapes chirurgicales de la reconstruction au visage.
Beaucoup plus loin du front, hein. Il y avait Bordeaux, il y avait Marseille, il y avait le Val-de-Grâce où a été tourné le film, avec une chambre qu'on appelait, je crois, le service des baveux. Pourquoi ce mot, cette formule ?
Ce sont les blessés eux-mêmes, je crois, dans la greffe générale, qui se sont appelés les baveux, parce que la plupart des blessés étaient blessés aux mâchoires, et que leur salive s'écoulait continuellement, et qu'ils n'avaient rien pour les retenir. Donc ils se sont appelés les services des baveux.
On écoute un autre extrait de la chambre des officiers avec André Dusselier dans le rôle du chirurgien accueillant un blessé.
Bonjour, lieutenant. Vous m'entendez ? Le programme est le suivant. On va vous alimenter pour refaire du sang et de l'os. Dans 2 ou 3 jours, je vous opère. Je remets un peu d'ordre. Et repos, beaucoup de repos. Avant de passer aux choses sérieuses. Je vous fais mal, là ? Un bras, une jambe, c'est simple. On coupe plus ou moins long. Une mâchoire, c'est différent. On peut tenter une greffe osseuse. On a plusieurs cas encourageants. C'est passionnant. Pour moi, plus que pour vous, évidemment. Dans quelques mois, vous serez flambant neuf. S'il souffre trop, un peu de morphine. Mais qu'il n'y prenne pas goût. On n'en aura pas pour tout le monde.
Sophie Delaporte, bon, c'est vraiment ce film est assez saisissant. C'est l'arrivée donc d'un blessé à l'hôpital du Val-de-Grâce. Vous disiez que la médecine n'était pas prête. En même temps, on a le sentiment, il est question de greffe osseuse qu'elle a réalisée. Je crois que c'est Stéphane Audouin-Rousseau dans sa préface qui le dit. Des progrès considérables pendant la guerre du fait de ce nouveau type de blessure.
Oui, enfin, je m'élèverai un petit peu contre le paradigme du progrès médical qui tente à considérer que dans une période de guerre, on puisse en tirer du bien. Je dirais plus simplement que le monde médical a tenté de répondre à des questions nouvelles qui lui ont été posées par la guerre.
Il n'était pas prêt, disiez-vous.
Et qui,
en fait,
ben non, puisque les expériences des guerres précédentes ne les ont pas préparées, et pas davantage la chirurgie ou les traumatismes que l'on rencontre en temps de paix. Donc il a fallu également improviser. Et dans le cas des blessures au visage, on peut penser que les médecins, enfin les réponses thérapeutiques apportées se situent davantage dans la continuité d'avant-guerre. C'est-à-dire que ce sont des méthodes de soins qui étaient appliquées en chirurgie dite générale, en particulier chirurgie des membres, c'est le cas des greffes ostéopériostiques dont parle de la Genière, mais c'est le cas également des greffes cartilagineuses, et que en dehors de cette continuité-là, le recours aux méthodes dites archaïques, c'est le cas notamment de la greffe dite italienne de Tagliacozzi, qui sont des méthodes qui étaient complètement tombées en désuétude et qui ont été reprises pendant la guerre, en particulier pour combler les pertes de substances au visage et au nez en particulier. que les réponses sont oscillées donc entre une forme, certaine forme d'archaïsme et aussi une certaine forme d'innovation qui sont plus rares, en particulier le greffe bipédiculé du lambeau dite du fourmentel, mais qui intervient très tardivement. C'est-à-dire qu'on l'a prélevé de lambeaux de peau au sommet du crâne et qu'on le rabattait sur le visage de manière à combler la perte de substance au niveau des mâchoires inférieures.
Alors, en tout cas, des soins très longs, Sophie Delaporte, pour les malades, très éprouvants aussi moralement. Par exemple, vous évoquez, bien sûr, le jour où le blessé, souvent bien après sa blessure, découvre son visage, ce que vous appelez l'épreuve du miroir. C'était autorisé, les miroirs, dans les salles d'hôpital ?
D'après le témoignage de l'infirmière, il semblerait que non. Et la difficulté pour l'historien, c'est justement que les blessés au visage n'ont pas témoigné de cette première épreuve qui est le fait de se voir, de se voir à travers l'autre que procurait le miroir. Je sais que François Dupeyron l'a fait dans son film, mais nous, on n'a pas de témoignage de la sorte.
Alors, il y a aussi des gens qui n'ont pas supporté, vous citez des cas de suicide ou de tentative de suicide, bien sûr. Puis alors, il y a inversement parfois la bonne humeur qui règne dans ces quartiers, dans ces chambrées de grands blessés. D'ailleurs, la preuve, il y a un journal qui a été cité tout à l'heure par Stéphanie, qui s'appelait La Greffe Générale. C'était un peu de l'autodérision. Vous citez par exemple un poème d'une gueule cassée. Je le cite, ce sont les blessés de la Trogne, du Val-de-Grâce, joyeux fous, riant de leur sort sans vergogne. Ce sont les blessés de la Trogne, revenant du monde où l'on cogne, de leurs pansements tous jaloux. Ce sont les blessés de la Trogne, du Val-de-Grâce, joyeux fous. C'est extraordinaire cette façon qu'ils ont envie de surmonter leur handicap et leur douleur morale même.
Oui, mais c'est enfin les salles communes de blessés telles qu'on les connaît en 14 et telles qu'on ne les connaît plus aujourd'hui ont permis justement à cet ensemble de blessés de former une véritable communauté d'hommes défigurés. Et par là, leur ont permis également de tenir et de supporter les souffrances auxquelles ils se trouvaient confrontés. Et c'est l'une des singularités des blessés au visage, c'est-à-dire d'avoir à la fois le versant souffrance physique par les opérations qu'ils subissaient et également la souffrance d'ordre psychologique.
Aidés en cela, il faut bien le dire, Sophie Delaporte, et vous le dites, par le personnel médical, notamment les infirmières qui ont joué un rôle énorme.
Oui, le personnel soignant est l'un des éléments les plus importants justement dans l'étape d'acceptation par le blessé de son handicap. Et le témoignage d'Henriette Rémy est de ce point de vue absolument capital, puisqu'elle rapporte notamment plusieurs itinéraires de blessés.
Un des infirmières qui remplace la mère ou la femme en attendant la première rencontre,
qui sont un peu le père et la mère symboliques de la renaissance du blessé à l'hôpital.
Alors, en attendant une autre épreuve qui était également pire, peut-être la pire des épreuves de toutes, la première rencontre souvent dramatique avec la famille.
Il faut être courageux. Ne détournez pas les yeux, vous lui feriez encore plus de mal.
J'y vais pas, je peux pas. Plus tard, avec une autre tête. Il m'a promis. Il m'a dit qu'on verrait plus rien.
Votre femme vous attend.
Les enfants, ils sont là ?
Oui.
Comment je suis ?
Bien.
Charles, c'est moi.
Pas mon papa ! Pas mon papa ! Pas mon papa !
Alors cette scène du film de François Dupeyron, elle s'est produite souvent, vous le dites dans votre livre, Sophie Delaporte. La rencontre avec la famille, c'était souvent un échec désastreux.
Oui, mais c'est une étape qui est aussi capitale, justement, dans le processus d'acceptation par le défiguré de l'état dans lequel il est devenu.
Beaucoup de mères, même, qui parfois refusent ou ne veulent pas ou ne peuvent pas reconnaître leurs enfants, des divorces aussi qui se produisent. Et pourtant, après la guerre, dans l'immédiate après-guerre, les blessés de la face sont considérés comme des héros. Je citais tout à l'heure ce traité de Versailles où Clémenceau a tenu à ce qu'il y ait 5 grands blessés de la face, 5 oui. gueules cassées, présentes à la signature du traité devant les chefs d'État et de gouvernement qui étaient là.
C'est une reconnaissance reconnaissance symbolique de la nation, si l'on peut dire, de ce type, de cette catégorie de mutilés. Et c'était aussi, enfin, la délégation de Galkassé était également là pour impressionner la délégation allemande,
ouais.
Bien sûr.
Avec Clémenceau, cette formule de Clémenceau que vous citez et qui leur dit et qui dit à ses blessés, oui. Vous étiez dans un mauvais coin. Vous étiez dans un mauvais coin, ça se voit.
Ça se voit. Oui. Hein. Mais c'est comme le défilé du 14 juillet avec la mise en avant justement des handicaps, enfin des mutilés de guerre au premier rang. C'est aussi une marque de reconnaissance des mutilés de guerre.
Et souvent, et pourtant, après la guerre, Sophie Delaporte, vous dites qu'il y a eu beaucoup de difficultés d'insertion. Par exemple, on refusait à des gueules cassées, on refusait l'embauche. On ne voulait pas les embaucher à cause peut-être de leur visage.
Oui, et c'est l'un des aspects les plus difficiles pour l'historien. Cela vaut également pour d'autres catégories de mutilés à saisir, parce que nous manquons de témoignages directs. Et c'est vrai que, et le témoignage de l'infirmière le rappelle, toutes les expériences sont singulières. Mmh. Et le fait que les gueules cassées se soient retrouvées au sein de l'association L'Union des blessés de la face, qui est aussi la première association créée en fonction de la nature de la blessure, témoigne justement des difficultés, de la détresse à la fois morale et physique de cette catégorie particulière de mutilés.
Alors justement, cette association a été créée en 1921 par le colonel Picot, mais aussi par une des cinq gueules cassées présentes à Versailles en 1919, Albert Jugon, défiguré par un éclat d'obus en 1914 et que l'on écoute dans cette archive très rare de 1954.
Instinctivement, nous avons pensé qu'après notre sortie de l'hôpital, il fallait faire quelque chose, car un certain nombre de nos camarades étaient dans un état tel qu'il leur était difficile, pour ne pas dire impossible, de faire face aux besoins de la vie, de faire face à tout ce que comporte l'activité normale d'un homme, voire de fonder un foyer. Ce sont ces sentiments de solidarité, de fraternité que nous avions, comme lui, rapporté des Français autrefois. Ce sont ces sentiments qui ont été à la base de la naissance de notre association, que le colonel a voulu appeler les gueules cassées, car le mot répondait certainement beaucoup mieux que l'appellation de l'Union des blessés de la face.
Alors c'était Albert Jugon, c'est une archive assez rare là, qui est un ancien blessé de la face. Et vous l'avez jamais entendu, non?
Non, je n'ai pas eu l'occasion de l'entendre.
Et qui a été blessé et qui crée cette association, qui a servi à quoi? Des gueules cassées, on l'appelait gueules cassées à ce moment-là, mais c'était le nom officiel, c'était Association des blessés de la face, je crois.
Enfin, l'Union des blessés de la face. C'est l'un des pères fondateurs avec Jourdain de l'association des gueules cassées.
Et le colonel Picot, hein, qui en était le président aussi. Elle servait à quoi? Comment est-ce qu'elle s'est manifestée après la guerre?
On peut considérer que l'Union des blessés de la face a été en quelque sorte la continuité de la fraternité ou de la solidarité dont parlait Jugon, née dans les hôpitaux, et que ça a été vraiment un transfert de cette solidarité au sein de l'association.
Elle s'est traduite par la construction d'une maison où se sont retrouvées des gueules cassées, y compris d'ailleurs des gueules cassées d'autres guerres. On les a retrouvées après des gueules cassées de la guerre de 39-45, de la guerre d'Indochine, de la guerre d'Algérie. Et puis, je crois que pour cette association, bénéficier aussi de quelque chose, on oublie que ça a été créé pour les gueules cassées, c'est le fruit des bénéfices du loto. Il a été créé pour les gueules cassées à l'origine.
Oui, ils ont perçu à partir du milieu des années 30 un dixième de la loterie nationale qui a donc forcément aider considérablement l'association justement à se substituer en quelque sorte aux carences, aux déficiences de l'État. Il faut quand même rappeler que la question des pensions est essentielle pour eux. Ils le rappellent dans leur bulletin et c'est...
Mais il y avait déjà des pensions pour les blessés de guerre. Pourquoi une pension spécifique pour les gueules cassées?
Parce qu'ils ont été oubliés lors de la réforme de la loi des pensions en 1919.
Mais ils ont été tellement oubliés, Sophie Delaporte. Je crois que votre livre est le premier qui a été publié sur les gueules cassées.
Comment
ça se fait?
Parce que c'est une grande question, parce que l'historiographie a souvent longtemps délaissé tout ce qui avait trait au corps et en particulier au traumatisme de guerre, et dans le ça correspond également au renouvellement de l'historiographie du premier conflit mondial à laquelle on assiste depuis le début des années 90 et dont l'historial en quelque sorte est l'un des symboles.
Hein, voilà. Près de 50 ans en Yvelines qui est une très belle...
Yvelines,
effectivement dans la Somme. Alors merci en tout cas Sophie Delaporte de nous avoir rappelé leur histoire. On se quitte sur ce dernier extrait du film de François Dupeyron, Le jour où le blessé quitte l'hôpital du Val-de-Grâce.
C'est le grand jour. On y est arrivé.
Je vous dois tout.
J'aurais préféré que vous n'ayez pas à vous cacher derrière un bandeau.
Je peux l'enlever. C'est pour les autres que je le porte.
Dès l'instant où vous accepterez, les autres vous accepteront. Je suis sûr qu'un jour, vous n'en aurez plus besoin. Bonne chance, lieutenant.
J'ai passé 1640 jours ici. Ça vaut le coup d'être vivant. Courage.
C'était un dernier extrait de La Chambre des officiers de François Dupeyron avec Sabine Azéma, André Dusselier et Eric Caravaca, un film édité chez ARP. Je rappelle que mon invité d'aujourd'hui, Sophie Delaporte, est donc l'auteur d'un livre passionnant, Gueule cassée, les blessés de la face de la Grande Guerre, un livre disponible aux éditions Noésis. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute ou nous contacter sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. La technique Éric Audra et Christophe Goudin, documentation Violaine Ballet et Virginie Bloch-Lenné, Archivina Émilie Tracente, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Émission initialement diffusée le 5 septembre 2002. Demain, dans 2000 ans d'histoire, Yvan le Terrible.